Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Mes chers docteurs sont excités comme jamais aujourd'hui. Ils vont nous parler de révolution. Oui, vous l'avez bien entendu, pas d'évolution, pas de réformisme, mais de révolution. Évidemment, tout dépend par ce qu'on entend avec ce mot. Et parfois, on s'y perd, et c'est même le cas le plus fréquent. Nous sommes sourds, aveugles et muets sur ce sujet. Heureusement, House, Jekyll et Mabuse, dans le désordre révolutionnaire, sont là pour nous éclairer. Peut-on la faire dans les salons ou faut-il forcément descendre dans la rue ? Comme le dit souvent Jekyll, ce n'est pas le tout d'y descendre, encore faut-il savoir y rester. La révolution, ou plutôt les révolutions, nous font rêver à un monde meilleur où elles nous inquiètent et nous recroquevillent sur nos acquis. Nous sommes souvent frileux, ayant peur de perdre même ce que nous n'avons pas. Le conservatisme est omniprésent dans nos sociétés et dans nos têtes, alors qu'en souffle le vent révolutionnaire, nombreuses sont les entraves pour faire exploser l'ordre établi. Mabuse, House et Jekyll, je change les ordres de temps en temps, sont-ils des révolutionnaires ou des conservateurs ? Vaste question, nous leur laisserons le soin de nous soigner avec leurs remèdes indigestes, mais souvent salvateurs. La révolution tralalaire, la révolution des mœurs, la révolution des idées, des arts et que sais-je encore. Être ou ne pas être révolutionnaire, d'accord, mais encore de quelle révolution parle-t-on ? Jusqu'à quelle limite pouvons-nous envisager de révolutionner même notre quotidien ? La révolution, elle, peut être de velours, peut être bourgeoise, populaire. Alors, laissons nos trois docteurs nous expliquer la révolution pour savoir si nous les suivons. Alors, on va pas être révolutionnaire. On va commencer par Mabuse. Soyons comme d'habitude dans cet ordre. Mabuse.
Oui, j'aime bien parler le premier quand il s'agit de révolution parce que la révolution, c'est d'avoir une avant-garde. Donc, je prends la parole et je garde le pouvoir. En géométrie, tracer une révolution consiste à effectuer un tour complet pour revenir au point de départ. Ainsi, la Terre effectue une révolution autour du Soleil en un an. En politique, on ne trace pas une révolution, si ce n'est dans les livres. On fait la révolution. Toutes les révolutions ne se ressemblent pas. Ainsi, la Révolution française de 89 est initiée par la bourgeoisie, alors que la Révolution nationale l'est par l'extrême droite dans les années 30. Que dire de la Révolution russe de 1917 ou de la guerre dite révolutionnaire de Mao ? La révolution politique serait une rupture plus ou moins brutale, mettant un terme au régime précédent. On peut aussi assister à des révolutions douces, comme la révolution des œillets au Portugal, mettant fin à la dictature de Salazar, ou la révolution orange ukrainienne. Ainsi, la géométrie ne couvrirait pas la réalité du monde politique, même si le vocabulaire est parfois identique, avec son centre, ses extrêmes, ses moyens, ses médianes, ses médiateurs ou médiatrices, ses lignes et ses actes, etc., etc., etc. La révolution serait en fait le dernier recours à faire évoluer une situation que le pouvoir souhaitait conserver à tout prix, en décalage complet avec les aspirations du plus grand nombre. Le problème n'est pas la révolution politique ou sociale, mais ce que l'on en fait. 1789 a-t-elle accouché d'un nouveau roi avec Napoléon Ier, enfant de cette même révolution ? Staline était-il un nouveau tsar ou Mao un nouvel empereur de Chine ? Si tel était le cas, alors la géométrie exprimait bien le retour au même point après un tour complet. Le vrai problème serait alors la longueur de la circonférence avec une hypothèse d'une longueur infinie liée au concept de révolution permanente. Puisse-t-elle ne pas correspondre à la théorie des catastrophes ? La seule vraie révolution est celle que chacun devrait faire dans sa tête, en remettant en cause en permanence ses propres certitudes et à admettre que l'on peut se tromper sans jamais renoncer. Comme je l'ai dit souvent ici, la vraie révolution est d'être réaliste et de demander l'impossible.
Alors, Mabuse vient de nous faire son petit exposé. Nous allons demander à House ce qu'il en pense. House, en général plutôt un révolutionnaire.
Pop.
Un révolutionnaire de clinique.
Il y aura... Non. Alors, ce que j'embrasse, il y aura encore des révolutions. La société évolue sans cesse, traversée par des forces et des intérêts contraires. Aussi sûrement et à notre insu que la nuit s'efface étoile après étoile et qu'on s'entend dire « ça suffit », comme on dit « tiens, il fait jour ». La société crée ses propres déséquilibres. Seuls les Dracula, dans leur chambre noire et les porteurs de lunettes noires, refusent de voir cette évidence. Les freins et les résistances du mépris à la répression déterminent les degrés de violence. Protestations, émeutes, révoltes, jacqueries, rébellions, tous les « ça suffit » ne font pas pour autant des révolutions. La révolution naît de la théorisation de la révolte. La révolution n'a pas pour vocation à supprimer le pouvoir avec un grand P, mais à substituer un ordre à un autre ordre. Les trains révolutionnaires sont des curieuses machines où ceux qui montent dans le dernier wagon en prennent souvent le commandement. Moi, je suis de la race ferroviaire, je regarde passer les vaches.
Alors, oui, elle est pas mal celle-là, c'est pas de vous, Aoussa.
C'était de Léo Ferré.
Voilà, c'est de Léo Ferré, je suis de la race ferroviaire, c'est excellent ça. Maintenant, bah, écoutez, puisqu'on a parlé de Ferré, on va se tourner vers notre docteur, peut-être le plus anarchiste que je connaisse, Jekyll. Alors Jekyll, lui, qu'est-ce qu'il en pense de cette révolution? Et moi aussi j'ai cité Ferré, au fait, j'ai dit la révolution tralalère.
Absolument.
Bah, alors que la nuit recouvrait la ville, légèrement assoupi, je déambulais dans le dédale des circonvolutions de mon cerveau. Et au cœur du labyrinthe, je croisais surpris un vieux compagnon de mes insomnies estudiantines, c'est peu dire. Un Romain, une curiosité intellectuelle, comme le père des méthodologies journalistiques quand ce dernier était encore en mesure d'investiguer ici et ailleurs. Et qui était ce cartésien avant l'heure? Quintilien, le rhéteur. Le concepteur des circonstances avait son questionnement en 7 points comme il se doit. Quoi? Qui? Où? Quand? Avec quels moyens? Comment? Et pourquoi? C'est une méthode qui permet d'interroger les événements quels qu'ils soient. Ah, et là, je vous entends bougonner. Ouais, c'est quoi un événement? Eh bien, un événement, c'est un fait aux conséquences importantes, avec un avant et un après. Et comme une révolution, par exemple. N'importe quelle révolution. Alors, bah, travaux pratiques, s'il vous plaît. C'est quoi une révolution? C'est une rupture temporelle au terme de laquelle le neuf l'emporte sur l'ancien. Regardez la Révolution française et son ancien régime, les Américains et leur nouveau monde. Bon. Et c'est qui une révolution? Bah, c'est une avant-garde éclairée guidant le peuple, si j'en crois les marxistes et les léninistes, ces experts en dadaïsme révolutionnaire. Éclairée, mais avec des ventres pleins. C'est où une révolution? Ben, ça dépend. Pour les petits bras, dans un salon, voire un palais. Pour les plus audacieux, en Atlantique, avec des effets planétaires sous forme de boomerang. Partie du Royaume-Uni, elle vogue vers l'Amérique pour revenir en France, puis en Europe, imploser en Russie et enfin exploser en Chine. C'est quand une révolution? Lorsque le vieux monde nuit à l'évolution. Quelle que soit cette évolution, raison pour laquelle une révolution peut même être libérale. Évolutionnaire, diront certains. Encore faut-il se donner les moyens d'en faire une de révolution. Et là, je ne peux que me cacher derrière la fausse citation de Machiavel dans Le Prince, énonçant « la fin justifie les moyens ». Dans la série « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». C'est là d'ailleurs que le bât blesse. Lorsqu'il faut éliminer l'essentiel du peuple pour faire son bonheur, c'est quand même ballot, non? Il faudrait bien calculer avant le pourcentage au-delà duquel il n'est pas judicieux de continuer une révolution. Bon, et comment on fait une révolution? Avec des armes et des larmes, avec des mots, enfin surtout avec des couilles, puis avec du cul pour la réussir. Enfin, me direz-vous, pourquoi diable vouloir absolument faire la révolution? Ben, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Ah, Quintilien, mon ami, voilà donc pourquoi il faut tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de proférer une connerie. Tiens, 7, encore ce chiffre magnifique sacralisé dans toutes les civilisations. Vraiment, il faudra qu'un jour, je me penche sur la question.
Alors Jekyll va se pencher sur la question, peut-être en discutant avec les deux autres docteurs, déjà un peu. Ce jour, c'est peut-être aujourd'hui, cher Jekyll. On peut s'y penser dès maintenant. Entre Mabuse House, vous pouvez engager au moins une conversation, pas forcément révolutionnaire, mais sur la révolution.
Oui, moi j'aurais une question à poser. Est-ce que les révolutions qui seraient des ruptures ne sont pas là, non pas pour installer un autre pouvoir, mais un nouveau conservatisme?
Alors ça a été le cas, je suppose, dans l'histoire.
Tel que, on l'a entendu tout à l'heure, où la révolution ferait passer d'un ordre à un autre ordre. Alors dans ces cas-là, oui. Pour moi, une révolution, c'est pas ça. Et pour moi, une révolution, c'est passer de l'ordre au désordre. Sinon, ça n'a aucun intérêt.
Le désordre, c'est le passage obligé d'une révolution. Mais non, le désordre, mais ça suffit, comme je dis, le désordre. Parfois, il grandit, ou il ne grandit pas, ou il est réprimé, ou il rebondit. Mais le désordre est indispensable, mais il est insuffisant. Ce qui compte, c'est... En fin de compte, les révolutions, c'est de la récupération de la révolte. Et la récupération de la révolte, c'est effectivement une théorisation de cette révolte qui fait qu'un ordre neuf se substitue à un ordre ancien. Voilà.
Et à partir de l'ordre neuf, d'aucun. Il n'y a pas si longtemps, parler d'un ordre nouveau.
Pour l'imposer, ma foi. Ou bien il se fait, de velours, ou il se fait dans la violence, ou il se fait face à des contre-révolutionnaires. Après, il y a un prix. Mais c'est toujours une substitution d'un ordre à un autre ordre.
Sur la violence,
pour ça, je tout raté, quoi.
Les violences, une révolution est par essence violente, qu'elle soit manifeste ou latente. Elle est ressentie comme une violence par les anciens du pouvoir. Mais moi, je te trouve très pompidolien, cher confrère, parce que finalement, c'est la réforme, chienlit.
C'est assez étonnant quand même. Je te pose une simple question. Où se finit la révolution française? Quand peut-on dire, tiens, la révolution française est abouti.
La Révolution française aboutit à peu près un siècle plus tard, c'est-à-dire avec la Troisième République. Il a fallu pratiquement un siècle pour que actes de la Révolution...
Ça, c'est d'autres soubresauts.
Non,
c'est d'autres soubresauts, c'est d'autres révolutions, c'est d'autres mouvements.
Napoléon,
ça s'arrête quand Napoléon, à partir de ce moment-là, fait
qui est un enfant de la Révolution.
À partir de ce moment-là, la Révolution française arrive au bout.
Quand Bonaparte...
Elle est au bout, elle n'existe plus.
Ah, ou quand Bonaparte devient Napoléon, c'est ça que vous voulez dire.
Clémenceau disait, la révolution est un bloc. Elle ne se divise pas, elle se... Voilà.
Et peut-on faire la révolution pour faire le bonheur du peuple? Je retiens ce que vous avez dit.
Malgré lui.
Malgré lui, ça c'est intéressant comme sujet. Ça c'est Jekyll. Jekyll, t'es toujours un petit peu... on s'appelle pas Jekyll pour rien.
Au Cambodge, 30% de la population massacrée pour son propre bonheur.
Pour son propre bonheur. Bon, donc,
est-ce qu'on appelle ça une révolution ou un coup d'État?
C'était considéré la révolution des
Quelle différence il y a entre un coup d'État et une révolution?
Ça, c'est le problème des Khmers Rouges. On pourrait dire la même chose pour l'Union soviétique, Chine.
C'est pas parce qu'il y a violence qu'effectivement il y a révolution. Parce qu'il peut y avoir violence dans un coup d'État. On a vu ça avec Pinochet, ça avec Franco, etc. Mais si on ne peut pas appeler Franco ni Pinochet une révolution.
Ce sont des révolutions nationales.
Et je dois dire qu'aujourd'hui, on est davantage exposé à des violences issues d'un coup d'État. Plus qu'une révolution. Parce que par essence, une révolution, elle part à partir d'un mouvement populaire, elle part à partir de la plus grande...
Pas vrai de la Révolution française.
Mais on n'a pas évoqué...
Une révolution bourgeoise, animée par des intellectuels bourgeois, qui revendiquent le soutien
populaire dans les campagnes, etc.
Pas en Vendée notamment, et pas dans tout l'Ouest.
Il faut bien qu'il y ait des opposants.
Je pense que la Révolution française, justement, est un contre-exemple, parce que ça a été animé par un groupe social, en l'occurrence la bourgeoisie, qui animait toute la dynamique économique et la dynamique intellectuelle, et qui s'est dit, on ne voit pas pourquoi la noblesse qui n'a aucun droit et qui ne fait rien, qui rejette le principe du travail, mettons à bas les privilèges dans la
Révolution française, c'est avant toute chose l'échec d'un réformisme qui n'est pas allé aussi vite et aussi loin que ce qu'il aurait dû. Et dans le même temps... Alors que les gens qui sont arrivés... à Paris, ils étaient quand même mandatés
par les campagnes.
Alors, mes chers docteurs, on a compris un peu vos divergences sur la Révolution
et les
française.
Pour les anciennes.
Bah, voilà. Parce que c'était ceux qui connaissaient...
Non, mais pas finir avec la Révolution française.
Oui, mais attention, on ne va pas parler que de la Révolution française.
C'est un transfert de privilèges, non pas l'abolition des privilèges. Voilà.
Alors, oui, tout à fait vrai, Jack Hills, nous sommes bien d'accord. Est-ce qu'on peut parler de révolutions plus récentes, par exemple, parce que le temps passe, vous savez, on est à quelques minutes de la fin. La Révolution arabe, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une révolution, la révolution dans les pays du Maghreb, là, qui s'est déroulée? Comment ça se déroule en Tunisie, en Égypte? Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a rupture. Donc, puisqu'il y a rupture, donc il y a révolution. Révolution n'est pas forcément signe directement de progrès. Mabuse le disait tout à l'heure. Au niveau d'une révolution, la plupart du temps, il faut du temps. La Révolution française, allez, pour aller vite, il a fallu grosso modo un siècle. Ce n'est que vers 1888-89, c'est-à-dire un siècle.
La seule qui pose un problème, c'est la révolution islamiste en Iran par rapport à ce...
Oui, mais si on prend le cas de la Tunisie, par exemple, c'est intéressant, parce que la Tunisie a fait un effet de balancier terrible avec la victoire très large des mouvements islamistes. Et puis quand on voit que 3 ans après, quand on voit sortir la nouvelle constitution, dont on peut penser que sur certains points, elle est plus en avance que la nôtre, hein, notamment dans le domaine de la parité, de l'égalité, etc., des hommes-femmes, on pouvait effectivement douter qu'on arrive à ce point-là. Et pourtant, alors je ne sais pas comment elle sera appliquée, je ne sais pas quel sera l'avenir.
Pour la Tunisie.
Absolument.
Alors que pour l'Égypte, pour la Libye notamment, il n'y a pas ce même passé.
Ou la Syrie aussi actuellement.
Ou l'Irak, etc. Quoi.
Alors mes chers docteurs, nous avons parlé de la Révolution, mais on est resté beaucoup sur le plan historique. On n'a pas beaucoup parlé de la Révolution personnelle, la Révolution intérieure, à part Mabuse dans son texte.
Si.
Dans ton texte, c'est ça que je dis.
Je pense que c'est la seule véritable révolution parce qu'elle constitue une évolution, à mon avis. C'est-à-dire, si on est capable de se remettre en cause, d'évoluer, de parfaire ses connaissances, de changer éventuellement d'opinion, de douter de ses certitudes, à mon avis, c'est une véritable révolution permanente. Je ne crois...
Un vrai révolutionnaire, c'est un mec qui change de femme tous les 5 minutes. Qui fait des ruptures, non?
Je ne sais pas. Je pense que les vrais révolutionnaires sont les femmes qui acceptent ce genre de situation.
Sur le plan personnel, on peut aussi penser qu'effectivement, une révolution, lorsqu'on parle d'une révolution dans quelqu'un, c'est parce qu'en fin de compte, il s'est lui-même enfoncé dans une sclérose et il a bloqué sa propre évolution. Parce qu'une personne qui évolue, je dirais, régulièrement, à partir de ce moment-là, ne fait jamais de révolution.
Mais moi, j'ai terminé...
C'était Aous, nous parlons à Mabuse.
Oui, mais moi, j'ai dit il faut pouvoir admettre qu'on se trompe sans jamais renoncer à se battre. Je répète la dernière phrase de mon propos, c'est la vraie révolution, c'est d'être réaliste et de demander l'impossible.
Ah oui, demandons l'impossible.
Y compris à soi-même.
Jekyll, un petit mot avant qu'on arrive à la fin de cette émission?
Oui, je voudrais revenir sur une terminologie géométrique de départ, à savoir la révolution. Et c'est vrai qu'à l'origine, avant 1789, c'était par exemple le fait que la Terre tournait autour du Soleil et donc faisait une révolution. Bon, c'est vrai que pour l'époque, c'était avant la Révolution française, on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Or, aujourd'hui, on sait pertinemment que c'est une grosse connerie, c'est que c'est scientifiquement complètement faux, puisque le système solaire et la Terre, qui fait partie de ce système solaire, se déplace à la vitesse de 18 km à la seconde. Donc le temps que la Terre fasse le tour du Soleil, c'est-à-dire grosso modo un an, vous multipliez le nombre de secondes qu'il y a, c'est-à-dire 18 km, le nombre de secondes sur un an. Donc on ne repasse pas du tout au même endroit, on n'a pas fait la révolution au même endroit.
Exact.
D'où, on en parlait il y a quelques semaines, ici même, les théories de Claude Gluosu à l'époque, sur les cycles révolutionnaires.
Oui, la semaine dernière.
Où on a l'impression de revoir ou de revivre des événements qu'on aurait déjà vécu. Et or, même si ça se ressemble, ce n'est pas la même chose. Ce sont les limites du comparatisme.
Moralité, l'histoire n'aura pas que jamais les plats.
L'histoire ne passant jamais les plats, je vais être obligé de vous couper, mes chers docteurs, car nous arrivons à la fin de cette émission. Alors on va dire à samedi prochain, comme on dit souvent ici, pour les toutes nouvelles, pas que demain, que de demain, puisqu'on va parler pour les toutes dernière nouvelle du con.
Alors, quoi de neuf, docteur?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur?
Alors, quoi de neuf, docteur ?